Ricordo. Merci. La fécondité surabondante de Dieu nous propose notre propre fécondité. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, il est normal que nous respections l'altérité d'autrui et même la liberté d'autrui. Je ne vous connais pas beaucoup, mais je crois déjà avoir entendu parmi vous la souffrance que nous ressentons lorsque nos enfants ne vivent pas comme des chrétiens que nous avons été. Des chrétiens joyeux, heureux, féconds que nous étions, nous pouvons produire des enfants qui ne croient pas. Nous pouvons produire des enfants qui ne font pas baptiser leurs enfants, qui ne les conduisent pas à l'Église. Et ça nous fait mal. Si nous ressemblons à notre Père, nous allons accepter cela. Même si moi je dois continuer d'être un humain qui vit en communion avec Dieu, dans une relation d'alliance, c'est ce que Dieu a voulu. Depuis toujours, et dans toute la révélation, Dieu dit « Moi je veux vivre avec toi ». « Veux-tu vivre avec moi ?» Et si nous lui répondons « Oui », Dieu entreprend avec nous une relation filiale d'alliance. « Je serai pour toi un père, tu seras pour moi un fils, une fille. » Et comment vas-tu faire pour me ressembler? Comment vas-tu faire pour me rendre un culte? Tu vas me ressembler. Je veux pas de sacrifice. Je veux même pas des louanges gratuites. Je veux que tu penses comme moi, que tu parles comme moi, que tu agisses comme moi, que tu cherches partout la justice, que tu cherches la vérité, le respect des droits. Et là, tu pourras vérifier que tu es vraiment mon enfant. Ensuite, si tu veux me faire des sacrifices puis des prières, tu feras tout ce que tu veux. Mais je ne veux pas de prière si ton cœur n'est pas avec moi. Moi, je veux, c'est ton cœur. Ça, je me suis promis de ne pas le prendre. Mais si je veux des sacrifices, tous les animaux de la terre sont à moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire. Alors, je ne peux rien donner à Dieu que je n'ai pas reçu de lui. Souvent, dans l'Eucharistie, on le rappelle. Hein. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Alors, je peux rien donner à Dieu que je n'ai pas déjà reçu de lui. Sauf librement donner mon cœur parce qu'il m'a donné de la liberté et il respecte ma liberté. Je suis appelé comme être humain et tout être humain est dans cette condition-là. Il est appelé à être en communion d'alliance avec Dieu. Pas par sa propre initiative, c'est pas parce qu'on y a pensé. C'est pas les humains qui ont inventé ça. Mais on aspire à ça. Les humains ont été créés pour cette relation-là. Une relation d'alliance filiale. Et nous sommes appelés à reproduire cette relation d'alliance filiale entre nous. D'alliance fraternelle entre nous, puisque nous avons le même Père. Parfois, j'aime à penser que Dieu est comme un papa ou un grand-papa vers qui je me jetterais, puis qui serait capable de m'embrasser, et qui, sans cesser de m'embrasser, me retournerait de bord, puis me dirait, en me tenant encore embrassé, « As-tu vu? Tu as des frères et des sœurs. Je ne suis pas seul. » Je n'ai personne avec moi. Non, j'ai quelqu'un avec moi. J'ai un père et j'ai des frères et des sœurs. Et c'est dans mon intimité avec Dieu que je découvre que j'ai des frères et des sœurs et que je découvre d'abord que moi, je suis le frère de ma sœur, de mon frère. Et que peut-être que mon frère ou ma sœur, pour le moment, ne veulent pas rien savoir de moi. Ça peut arriver, ça. Je suis ton frère. J'ai du pouvoir sur moi. J'ai le pouvoir de dire, moi, je vais être fraternel. Si mon frère ou ma sœur ne veut pas être mon frère ou ma sœur, c'est son problème, c'est pas le mien. Je dois rien faire pour nuire à la fraternité, mais c'est à moi de décider d'être fraternel et d'offrir des liens d'alliance, des liens de relation fraternelle. L'être humain, donc, en communion avec Dieu, se met en communion avec ses semblables et trouve là sa véritable fécondité, dans une relation féconde, qui donne du fruit, qui donne la vie, une relation vivifiante. Si vous êtes maman, si vous êtes papa, vous savez ce que c'est que de donner la vie. Et vous savez aussi, même si vous ne l'aviez pas de manière théorique, vous avez appris à l'expérience que quand vous donnez la vie à des êtres autonomes et libres, qui ne seront jamais des copies conformes et qui ne seront jamais programmés par la meilleure éducation au monde, ils ne seront jamais programmés selon ce que vous avez désiré. Autonomes et libres. Et qui trouvent leur propre fécondité. On le voit presque régulièrement, même à la télévision, des gens qui de père en fils sont brasseurs ou qui sont de père en fils des industriels ont tout à coup un héritier qui dit « Non, ce ne sera pas pour moi. Ah, ton arrière-grand-père a fondé cette usine-là, ton grand-père, puis moi, on a relevé ça. Pourquoi toi, tu ne le relevais pas ?» Une autre voie m'attend. Moi, je suis appelé à faire autre chose. Et c'est ça, respecter l'autonomie et la liberté, même de ses enfants, même dans une dynastie familiale. On trouve notre propre fécondité dans une relation, mais une relation qui suppose autonomie, liberté et fécondité propre. Dans ce cadre-là, la solitude est un mal, et le mal qui vient de la brisure d'alliance. On appelle ça un péché. Je ne veux pas ce que tu penses. Mais ce que Dieu pense, c'est pas que je sois autonome et libre, c'est que je dise non à Dieu. Non à quoi? Non à ressembler à Dieu. Je ne veux pas être comme Dieu. Je ne veux pas de l'autonomie, de la liberté, de la fécondité que je ne dirigerai pas moi. Je m'accapare du pouvoir sur autrui. Je manipule. Je pense que si vous écoutez les médias de ce temps-ci, vous ne manquez pas d'exemples de potentats qui s'emparent du pouvoir et qui pensent tout régler comme s'ils étaient Dieu eux-mêmes. Et qui vont même jusqu'à tuer autrui. Et ça n'a pas d'importance, du moment que leurs idées triomphent, que leur pouvoir l'emporte. Nous avons suffisamment de missionnaires ou de coopérants à l'étranger, parmi même nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos cousins, nos cousines. On est assez bien informé de ce qui se passe dans certains continents, et même en Amérique, et même au Canada, pour voir qu'il y a des abus de pouvoir, des ignorances, la question autochtone en particulier. On n'est pas méchant pour les autochtones, mais notre pire péché, c'est de les ignorer, de faire comme s'ils n'étaient pas là, ou s'ils ne comptaient pas. Puis si on va chez eux, d'arriver chez eux comme si j'étais chez nous. J'ai le privilège d'aller au Nunavik depuis quelques années. J'ai vraiment conscience, même si c'est le même Québec que Saint-Georges-de-Beauce, Je suis ailleurs quand je suis à Kandir-Shujwak. Je suis chez eux, dans un autre pays. Il y a des arbres dans la Beauce. Il n'y a plus d'arbres à Kandir-Shujwak. À peine des herbes. Je comprends, rendu là-bas, pourquoi ils ne cuisaient pas leur viande. Les Inuits, les Esquimaux, comme on disait, mangeurs de viande crue. Avec quoi qu'ils auraient fait cuire? Pas de bois, rien pour brûler. Alors, ils mangeaient cru. Puis, ils sont habitués tellement qu'ils sont encore capables, même s'ils sont capables de manger des ailes de poulet de Saint-Hubert. Ils ont des bons magasins avec des produits congelés, eux autres aussi. Mon péché, donc, c'est ma rupture d'alliance, c'est de me prendre pour Dieu moi-même et de ne pas être attentif à l'autonomie, à la liberté, à la fécondité propre de l'autre, à la fierté de l'autre. Je deviens pécheur, donc je me coupe d'autrui. La solitude, je reviendrai là-dessus mercredi, peut aussi, dans ma relation avec Dieu, conduire à une solitude prophétique. J'insiste pas ce soir, mais la solitude prophétique, c'est celle de Jésus. C'est celle de tous les prophètes et prophétesses de la Bible. Quand tu penses comme Dieu, quand tu parles comme Dieu, tu déranges ceux qui usurpent le pouvoir absolu, ceux qui se prennent pour Dieu. Ou ceux qui ignorent les petits, les pauvres, les faibles. Je peux revenir un peu plus loin. Il n'est donc pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui a donné une compagne, puis a donné un compagnon à la compagne. Selon la Bible, selon Dieu, la solitude est un mal. D'abord un mal. Temporairement, il pourrait être une utilité, on va revenir là-dessus à un autre moment de la retraite, il y a une fécondité de la retraite et de la solitude, pardon, même de la retraite, il y a une fécondité de la solitude, il y a un bien de la solitude, entre autres ce fameux Matthieu 6, 6, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. C'est pas rien ça, mais on va revenir là-dessus. Pour le moment, envisageons la solitude que Dieu ne désire pas pour nous. La solitude, vous la voyez à plein écran si vous suivez l'actualité du monde. Les pauvres, les étrangers, les migrants, même les veuves, les orphelins, sont toujours la cible, encore aujourd'hui, des prédateurs de toutes sortes. Des abuseurs de toutes sortes. Et pour cela, dans toute la Bible, constamment, on revient là-dessus, Dieu exige que l'on protège particulièrement le pauvre, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Je voudrais vous lire à ce sujet Exode, chapitre 22, versets 21-22, si je ne me trompe pas. Certainement 22-22, mais 21 aussi, je pense. Pardon, qu'est-ce que je fais là? Voilà. « Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras. » Car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Tiens-toi. J'écouterai le cri de la veuve ou de l'orphelin qui s'adresse à moi. Je vais prendre parti pour ceux que tu auras opprimés, s'ils crient vers moi. Laissez-moi vous conter une anecdote que j'ai connue en 72 lors de mon premier voyage en Israël. J'avais compté tous mes sous, j'étais pas très riche à l'époque, j'avais une bonne dette d'études, j'étais un jeune vicaire, on gagnait pas très cher. mais je m'étais payé mon premier voyage en Israël. À la fin de mon voyage, il ne me restait pratiquement pas de sous. Alors je prends un taxi pour me rendre à l'aéroport et je dis au taxi, « Quand vous serez rendu à ce montant-là, arrêtez, je ferai du pouce pour le reste. » Il me dit, « Vous n'en avez pas assez pour payer la taxe d'aéroport. » Taxe d'aéroport. Je savais même pas qu'il y avait une taxe d'aéroport. Il me conduit à l'aéroport. Il entre mes bagages dans l'aéroport. Il s'en va au comptoir d'El Al. Il a payé ma taxe d'aéroport. Il n'a pas demandé le prix de sa course. Ben, je lui ai dit, donnez-moi votre adresse. Quand je serai rendu chez moi, je vous renverrai le prix de la course au moins, puis la taxe d'aéroport. Il me répond, souviens-toi que toi aussi, t'as été un étranger en Égypte. Adieu. Bang! Ce texte d'Exode 22. Souviens-toi que toi aussi, t'as été un étranger en Égypte. Il y a des moments comme ça dans la vie qui sont « Parole du Seigneur » et qui viennent vous rentrer dans le dash, là, comme on dit. Ça cogne fort, mais un chauffeur de taxi qui a perdu son avant-midi pour moi et qui me la donne au nom de la parole de Dieu, il savait ce qu'il me restait d'argent, il me l'a même pas pris. Il aurait pu, je lui donnais. Même pas. Eh bien, c'est ça être un enfant de Dieu. Et je peux vous dire que cet épisode, moi qui enseignais déjà la Bible depuis 3 ans, j'ai commencé à enseigner la Bible aux adultes en 1969, j'étais diacre seulement à l'époque, puis j'ai toujours enseigné la parole de Dieu. Je ne pensais pas faire un professeur d'université. Je pensais qu'un chrétien, ça doit connaître la parole de Dieu puis l'enseigner, encore plus un prêtre. Je pensais juste faire ma tâche de ministre ordonné. J'ai jamais rêvé d'être professeur d'université, mais je m'est tombé dessus. Siracide, chapitre 4, verset 10 aussi, mais je vais lire 9 et 10 de Siracide. Les pauvres, les orphelins, les veuves seront protégés, puis Dieu se fera leur protecteur. Prête l'oreille aux pauvres et rends-lui son salut avec douceur. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour les orphelins un père et comme un mari pour leur mère. Et tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ne le fait ta mère. Dieu va t'aimer plus que ta mère. Siracide, chapitre 4, verset, j'ai lu 8, 9, 10. Siracide 4, 8 à 10. Mais c'est dit vite, là. Mais c'est ça l'intention de Dieu. Prêtez l'oreille aux pauvres. Pas juste regarder en passant puis jeter un 25 cents dans son chapeau s'il joue de la guitare au bord de l'entrée de métro au carré d'Youville. Me donner la peine d'écouter. À quelle heure tu prends ton dîner? Je t'invite à dîner ce midi. Crêpe bretonne, ça te va-tu? Prêtez l'oreille pour écouter. Puis on est capable de faire ça, là. Prêtez l'oreille aux pauvres, rends-lui avec douceur son salut. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Wow! Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Depuis la dernière guerre mondiale, on a renforcé l'ONU. On a donné à l'ONU tous les moyens pour être capable d'intervenir dans un pays qui s'en va vers la guerre. On s'est donné le droit même de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays pour assurer la paix et la justice. On a tout mis en place et on a tout bloqué à chaque fois qu'il est venu l'occasion d'exercer cette intervention bénéfique. Vous en parlerez au général Dallaire qui en souffre encore. Nous pouvons intervenir, mais il y a toujours quelqu'un qui met son veto. Et ce n'est pas toujours des méchants. Parfois, c'est « the United States of America ». Et ce n'est pas du monde méprisable, n'est-ce pas? C'est parfois les États-Unis qui disent ça. Comme ce sont les États-Unis qui ont dit à Paris « Stop! On ne va pas permettre à l'ONU de faire les règles pour changer les conditions climatiques. Non, chaque pays va faire ça à sa guise. » Les États-Unis ont dit « Non, l'accord de Paris, vous limitez ça au minimum, hein? » Puis on sait bien que le minimum auquel les pays s'étaient engagés, ça a été relâché très vite. Puis là, ben, vous voyez le bel été qu'on a eu, puis les beaux ouragans qui ont fleuri. Et ça, il semble que ce ne soit pas fini. Sois pour les orphelins un père, pas un abuseur, là. Comporte-toi comme si tu étais un père devant des orphelins. Sois un père pour les orphelins, une mère pour les orphelins. Vous avez probablement vu dans vos familles plein d'exemples qui se comportent ainsi. J'ai vu mes parents être comme les substituts d'une mère absente ou d'un père absent chez des voisins, chez des amis. On comblait. Et j'ai vu aussi des maris ou des épouses se comporter à l'endroit d'un veuf ou d'une veuve d'une manière qui est tentée de compenser un peu la détresse de ces personnes-là, la solitude de ces personnes-là. Nous le faisons lorsque nous ressemblons à notre père. Si jamais on fait mon éloge funèbre, j'espère qu'on pourra dire seulement « et qui ressemble à son père ». Et ça ne voudra pas dire Gérard, même si ça va accrocher Gérard en passant, « mon père du ciel » et que tu ressembles à ton père. J'espère qu'on pourra dire ça de chacune et de chacun d'entre vous, que vous ressemblez à Dieu. Nous l'avions dans la messe d'hier. « Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Vous devenez le visage de Dieu. En latin, on a deux belles expressions pour dire ça. « Alter Christus, ipse Christus ». Vous êtes un autre Christ, mais ça, on préfère garder ça pour les prêtres et les évêques. Mais « ipse Christus », ça serait peut-être encore mieux. Le Christ lui-même, ça veut dire Huguette, elle a la face de Dieu, c'est la face du Christ, c'est le Christ en personne quand Huguette est là. Ça veut dire que Jocelyn, quand il est là, c'est Dieu en personne qui est là. C'est le Christ en personne, le visage du Christ que je vois. Tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ne le fait ta mère. Siracide 4, 8, 9, 10. Enfin, il y a un aspect de la solitude qui est disciplinaire, je dirais. Dieu veut que le pécheur soit seul. Il y a même des phrases dans saint Paul qu'on comprend mal. Le pécheur qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas s'amender, traitez-le comme un païen. Alors on a compris dans l'histoire de l'Église, il est excommunié, on ne veut plus avoir de rapport avec lui. C'est pas ça que saint Paul avait dit. Qu'est-ce qu'on fait aux païens? On les évangélise. Ah! Alors mettez le compteur à zéro pour ce frère ou sa sœur, cette sœur-là, qui veulent pas s'amender, changer de comportement, s'ils se comportent contraire à Jésus-Christ, à l'enseignement de Jésus, de Dieu, puis ils veulent pas se corriger, mais traitez-le comme un païen, un étranger, on remet le compteur à zéro. Ben, mon cher ami, tu fais plus partie de la communauté, mais on va t'évangéliser comme les autres païens. T'es redevenu païen. On va remettre le compteur à zéro, on va pas t'abandonner. Je suis un peu bénédictin sur les bords depuis 54 ans, je pense, maintenant, comme oblat bénédictin, pour faire les choses en raccourci. S'il y a des oblats de Saint-Benoît parmi vous, là, ils vont se gigoter sur leur banc quand ils vont m'entendre dire ça. C'est un peu comme un tiers-ordre. C'est pas un tiers-ordre, mais on est associé à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Alors, je suis associé à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et je vis inspiré, ma spiritualité est inspirée par la règle de Saint-Benoît. Et il y a un passage que j'aime bien dans la Bible de Saint-Benoît, dans la règle de Saint-Benoît, pas la Bible, mais Saint-Benoît connaissait la Bible très bien. Et Saint-Benoît avait pensé, lorsqu'un frère délinquant dans la communauté fait des choses graves, tu le mets pas à la porte, mais il est excommunié par exemple. Il ne se mêle plus aux autres frères, il ne participe pas aux prières avec les autres, il ne mange pas à la table avec les autres, il est isolé des autres, excommunié vraiment. Mais on le laissera jamais seul. Il a dit, il faudrait que je prenne le mot même de la règle, c'est bien bizarre, ça pose un problème pour toutes les exégètes de Saint-Benoît. L'abbé doit prendre soin en toute sollicitude des frères qui ont failli, car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il doit donc, comme un sage médecin, user de tous les moyens. Il enverra des saint-pectres. De que c'est? Des saint-pectres. C'est un problème d'interprétation, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Je vais revenir là-dessus. Il enverra des saint-pectres, c'est-à-dire des frères anciens et sages, qui, comme en secret, réconfortent ce frère chancelant et l'engagent à donner une humble satisfaction, qui l'empêchent, par la consolation qu'ils lui procurent, de se laisser absorber par l'excès de la tristesse. Mais, comme dit l'apôtre, il faut que la charité redouble à son égard et que tous prient pour lui. Mais ils vont être auprès de lui, à l'écouter. Il va faire toutes les crises qu'il va vouloir. Il va employer des mots qui sont pas beaux, qu'on doit pas dire. S'il veut sacrer, s'il va envoyer le père abbé en enfer, puis le prieur aussi, puis remonter le feu à high, laissez-le parler! Lâchez les lousses. Il va sortir tout son venin. Puis une fois que vous l'aurez écouté, puis qu'il sera fatigué, commencez à le ramener au bon sens. S'il veut bien, en respectant son autonomie, sa liberté. L'abbé doit donc user en ses soins de toutes sortes d'adresses et d'habiletés pour ne perdre aucune des brebis qui lui sont confiées. On est dans les textes de brebis et de brebis, là, dans les textes que nous voyons ces jours-ci dans Ézéchiel. Ne perdre aucune des brebis qui lui sont confiées. Qu'il sache qu'il a reçu la charge de conduire des âmes faibles et non d'exercer sur des âmes saines un pouvoir tyrannique. Ça se pouvait, même au temps de la règle de Saint-Benoît au VIe siècle, qu'il y a des gens venus d'exercer un pouvoir tyrannique sur les autres, même en communauté religieuse. Pensez donc, ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut, même là. Partout, même dans des couples parfois, mais vous ne pouvez pas connaître ça, vous autres. Qu'il redoute la menace du prophète par lequel Dieu dit « Vous preniez pour vous les brebis qui vous paraissaient les plus grasses et celles qui étaient chétives, vous les rejetiez. » Qu'il imite plutôt l'exemple de tendresse du bon pasteur qui, laissant sur les montagnes les 99 brebis, s'en alla à la recherche d'une seule qui s'était égarée. Et il compatit tellement à sa faiblesse qu'il daigna la charger sur ses épaules sacrées et la rapporter ainsi au troupeau. Alors les saint-pectres, Le plus fin qu'on peut trouver comme traduction, là, c'est des cataplasmes. C'est ce qu'on fait quand on met des onguents puis des stérilisants là, qu'on met sur une plaie. C'est pour soigner la plaie. C'est un instrument pour soigner. C'est un soin approprié. Tu n'abandonnes pas les délinquants. Bonne question pour tous ceux que nous excommunions par le système carcéral. Bon encouragement pour tous ceux qui pensent à des peines alternatives aussi, puis à une alternative à la prison, puis à la... comment on appelle ça, là, la... Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé, ça c'est ma mémoire. La quoi? Non, 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 non. Mieux que ça, non. C'est spécialement au Québec qu'on pense à... Il y a un système, à l'intérieur même de la prison, là, pour que quelqu'un qui a commis un meurtre soit capable de rencontrer des victimes. Justice réparatrice! Bon, étonnamment, c'est au Québec que ça marche le mieux, ça. La justice réparatrice, des moyens de punir sans exclure quelqu'un de la vie sociale pour longtemps, le déprogrammer, puis déprogrammer toute sa femme puis ses enfants aussi pendant tout ce temps-là, parce qu'un prisonnier qui est là pour 20 ans en prison, pensez pas que ça fait pas de dégâts collatéraux dans les familles, ça. Puis qui c'est qui va avoir soin des adolescents, vous pensez, si c'est pas les gangs criminalisés qui ont des chums en prison? À moins que ce soit la communauté chrétienne, si jamais ça existe encore. Bon. Alors, Dieu ne veut pas que le pécheur soit seul, mais il doit être isolé de la communauté. Vous avez cet enseignement dans Saint Matthieu, « Si ton frère vient à pécher, avertis-le seul à seul. » S'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux frères, une ou deux personnes de plus, et va le trouver. S'il ne vous écoute pas, parle-en à la communauté. Et s'il n'écoute pas la communauté, considérez-le comme un païen. Remettez le compteur à zéro, pas rejetez-le. Dieu veut que le pécheur soit isolé, mais... parce que la solitude doit permettre au pécheur de penser à ce qu'il a fait de pas correct et probablement de penser à sa conversion, qu'il s'est fait du mal en faisant à autrui, qu'il s'est déshumanisé en n'étant pas humain à l'endroit d'une autre personne. D'une certaine façon, on peut dire qu'il arrive à peu près la même chose. Puis j'en ai entendu là, parmi vous qui vivent ça ou qui voient vivre ça par leurs proches. La maladie qui nous tombe dessus à l'improviste, la souffrance qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait cherché, la mort imprévue, la mise à l'écart qui est sociale parce qu'on a perdu son emploi, parce que... on a perdu ses élections, ça peut arriver, ou qu'on n'a pas été retenu pour la prochaine élection pour être candidat. Mise à l'écart, ça fait souffrir. Vous l'avez vu avec un député qui s'est fait mettre à l'écart. Cette expérience de maladie, celle que Martine Ouellette a connue, ça peut être désespérant. C'est une occasion de désespoir, de découragement. Mais ça peut aussi... opérer un changement pour dire « je me fatiguais pour beaucoup de choses, peut-être inutilement, je vais orienter ma vie autrement ». Ça peut être l'occasion d'une sorte de conversion aussi. Dieu exauce le pécheur qui revient vers lui. J'ajouterais juste pour terminer que notre Dieu a une manière d'exaucer même le pécheur. On lit parfois dans la Bible que Dieu est en colère, que Dieu se venge, que Dieu punit. Pendant plusieurs années, j'étais mal à l'aise avec ces phrases-là, ces expressions-là. Qu'est-ce que Dieu fait quand il se venge, quand il est en colère, quand il punit? Il exauce le pécheur. Quelqu'un d'entre vous tout à l'heure me rappelait que j'ai dit ça à Radio-Galilée déjà, et il s'en souvenait. Une d'entre vous s'en souvenait. Je prends l'exemple d'une mère de famille qui a bien élevé ses enfants, puis surtout sa belle grande fille qui est devenue une infirmière praticienne recherchée, et qui s'amourache de flan mou, même si on mange fromage au corps. Il travaille pas, il veut pas travailler, il fait rien de bon, puis il prend de la drogue, puis il boit. Ben, son infirmière praticienne vit avec flan mou puis a décidé de le marier. Là, sa mère et son père ont beau lui dire, « Pauvre petite fille, t'es en train de scraper ta vie, ça n'a pas de bon sens, il va te faire souffrir, tu vas souffrir avec lui. » Maman, si tu savais comme il est fin quand il n'a rien bu, c'est parce que vous l'avez toujours vu quand il avait consommé, mais si vous saviez comme il est fin quand il n'a rien pris. Puis on a le câble, fait que dans la journée, pendant que je travaille, il va regarder la télévision, puis... L'année prochaine, son cousin va revenir des États, puis il va lui donner une job. Mais là, en attendant, mon salaire suffit pour les deux. Pauvre petite fille, dans quoi tu t'embarques? Ah, maman, c'est parce que tu comprends pas. Ben, OK, d'abord. Marie-Lé. Ça, Marie-Lé, sous ce ton-là, là, c'est un impératif qui commande pas l'obéissance. Ça veut dire « fais à ta tête ». Et qu'est-ce qu'une mère qui aime sa fille peut faire de plus pour se venger de sa fille qui fait une bêtise? L'exaucer. Tu me veux pas? Tu veux pas écouter ton père? Tu veux pas m'écouter moi? Fais à ta tête. Si t'es mal pris et tu cries vers nous, si tu nous appelles, on sera là pour toi. Comme Dieu dit, je vais t'exaucer. Les ennemis vont venir de Babylone ou des Philistins, puis ils vont vous dévorer, vont vous tuer. Si vous criez vers moi, je répondrai, me voici. Mais si vous voulez faire à votre tête, vous allez vous scraper. Mais moi, je suis là pour vous. Comme une mère qui dirait à sa fille, si tu as besoin, on va toujours être là pour toi. On déménagera pas sans te le dire, on changera pas de numéro de téléphone, puis on garde ta chambre. Je t'exauce, ma fille. Tu veux faire à ta tête? Fais à ta tête. Notre parole compte pas pour toi? Fais à ta tête. Mais c'est ça que Dieu fait pour nous. Alors, sa colère, sa vengeance, sa punition, c'est loin de ce qu'on me faisait comprendre quand j'étais petit, pas juste avant d'être gros, là, mais quand j'étais petit, puis qu'on essayait de me faire comprendre que Dieu allait nous envoyer en enfer ou au purgatoire, puis remonter le feu à medium high, tiens, qu'elle allait nous faire souffrir. Dieu n'a pas besoin d'ajouter de la souffrance au péché. Le péché est déjà une souffrance. Rendons grâce à Dieu. D'être capable de transformer la solitude en occasion de rédemption. Rendons grâce à Dieu de désirer depuis toujours que notre solitude soit comblée, que nous ayons une compagne ou un compagnon qui nous soit assorti, que nous ayons une fécondité même improbable, avec tous les exemples d'Abraham, de Sarah, puis d'Anne, et puis de Marie, qui ont des fécondités improbable. Dieu est capable de rendre fécondes des situations d'impasse. Nous ne sommes pas condamnés à la solitude. Nous verrons dans les prochains jours que la solitude peut être prophétique. Nous verrons aussi qu'elle peut être bénéfique à certains moments, qu'elle peut être choisie et désirée, mais qu'elle n'est jamais isolement, isolation par rapport aux autres. Je ne parle plus. Nous allons entrer en célébration eucharistique bientôt. Je vous invite à transformer en offertoire tout ce que nous avons porté aujourd'hui. Vous êtes venus avec votre personne, mais je serais bien surpris que vous n'apportiez pas avec vous des dizaines d'autres personnes à laquelle vous avez pensé, auxquelles vous avez pensé au cours de la journée. Nous allons prier avec ces personnes-là. Nous allons nous présenter au Christ et nous donner au Christ. Et nous allons le recevoir. Nous allons offrir toutes nos vies. Me voici, Seigneur. Et il se donne à nous. Nous allons devenir des Christ, nous aussi, visage du Christ, des humains humains, des frères et des sœurs pour les humains que nous allons croiser dans vos taxis, dans vos autobus, sur la route, partout, si vous allez encore ce soir chez les magasins qui seront ouverts encore, et vous pourrez dire aux caissières, merci d'exister. Puis vous seul saurez toute la profondeur de ces deux petits mots-là.